RFI 18h à Paris, il est 16h en temps universel.
RFI Soir.
RFI Soir, c'est parti pour 2 heures d'actualité internationale. Dans une minute, le journal de Karine Bellicha qui revient notamment sur les derniers développements de la guerre à Gaza et cette loi à la Knesset pour réduire les activités de l'UNRWA, l'agence onusienne chargée des réfugiés palestiniens. Une situation suivie évidemment de près par les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, un scrutin et une campagne sur lesquels on revient dans Décryptage avec vous, Véronique Rigolet.
Oui, avec un Donald Trump en roue libre dans l'injure et l'outrance dans cette dernière ligne droite de la présidentielle. Est-ce une stratégie électorale ou bien les divagations d'un homme instable? On posera la question à deux spécialistes des États-Unis.
Réponse dans 10 minutes. Et puis dans une demi-heure, place au débat du soir. Faut-il faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris? La question est posée après une proposition faite par Rachida Dati, ministre de la Culture. Bienvenue dans RFI Soir, tout de suite le journal. Et c'est avec vous Karine Bellicha à la une.
À la une, le Proche-Orient. Israël a mené de nouvelles frappes meurtrières au Liban. Au moins 7 personnes ont été tuées dans la région de Tyr. Des roquettes ont été tirées dans le nord d'Israël par le Hezbollah. Le mouvement chiite dit avoir notamment visé une base navale israélienne près la ville de Haïfa. Alors que les offensives continuent à Gaza également, s'ouvre la session d'hiver à la Knesset. Le Parlement israélien doit débattre d'une proposition de loi visant à restreindre le travail de l'UNRWA. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est sur la sellette, accusée par l'État hébreu de terrorisme en lien avec le Hamas. Des accusations infondées selon les conclusions de l'audit international qui juge le travail de l'UNRWA perfectible mais indispensable. À Jérusalem, Sami Bourkhalifa.
Plus tôt cette année, c'est l'ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna qui a mené l'enquête. Elle a remis son rapport en avril dernier. Ses conclusions pointent des insuffisances mais pas de failles majeures. L'équipe de Catherine Colonna explique n'avoir reçu aucune preuve de la part des Israéliens pour étayer leurs accusations de lien entre l'UNRWA et le Hamas. Pourtant, dans la bouche des responsables de l'État hébreu, l'UNRWA est associée au groupe armé palestinien dans la bande de Gaza. L'objectif réel derrière cette stratégie est de décrédibiliser l'agence onusienne pour reprendre le contrôle des domaines dans lesquelles elle intervient dans l'enclave palestinienne, principalement l'aide humanitaire. Car Israël souhaiterait consolider son pouvoir sur la population de Gaza, explique une source humanitaire sous couvert d'anonymat. Pour y parvenir, le gouvernement israélien veut privatiser la distribution de l'aide en la confiant à une entreprise appartenant à un homme d'affaires israélo-américain. GDC, pour Global Delivery Company, est une entreprise de logistique qui a déjà livré des armes à Israël dans le passé, poursuit la même source basée à Jérusalem. Dans le milieu humanitaire, l'inquiétude est grande. Les Israéliens ont prouvé qu'ils n'ont pas à cœur l'intérêt des civils gazaouis. L'aide humanitaire est utilisée comme une arme de guerre. Et c'est pour cette raison qu'ils souhaitent court-circuiter le travail de l'ONU en criminalisant l'UNRWA, conclut cette source. Sami Bourkhalifa, Jérusalem, RFI.
L'opposition géorgienne se compte ce soir dans les rues de Tbilissi. Des milliers de manifestants pro-européens sont massés devant le Parlement. Ils refusent de reconnaître les résultats officiels des législatives. Une élection volée, disent-ils, par le parti au pouvoir pro-russe donné vainqueur. Les manifestants craignent que les espoirs d'adhésion au 27 soient réduits à néant et que la Géorgie se rapproche encore de l'orbite russe. Les États-Unis et l'Union européenne demandent une enquête sur le scrutin. Léonard Vincent.
Les Géorgiens ont le droit de savoir ce qui s'est passé ce week-end. C'est avec ces mots simples que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a résumé ce que plusieurs capitales occidentales ont dénoncé en termes plus diplomatiques. Des irrégularités avant et après le vote, selon la France. Des irrégularités significatives, selon l'Allemagne, en violation des normes internationales. Paris et Berlin ont appelé d'une même voix à une enquête approfondie après que la mission d'observation de l'OSCE en Géorgie, a dit avoir observé des cas d'achat de vote, d'intimidation d'électeurs et de bourrage d'urnes. Quant aux États-Unis, par la voix de son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, ils se sont joints à ces appels pour, je cite, « remédier à ces lacunes ». Washington a également demandé l'abrogation des lois répressives adoptées par la Géorgie ces derniers mois. En Europe, seul le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui préside actuellement le Conseil européen, a tenu à saluer la victoire écrasante du parti au pouvoir en Géorgie, tout en annonçant sa visite à Tbilissi ce lundi et mardi. Et de son côté, la Russie a rejeté fermement les accusations d'ingérence qu'elle qualifie tout simplement d'infondées.
En France, le procès de Gérard Depardieu a été reporté à mars 2025. L'acteur français de 75 ans ne s'est pas présenté cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris. Son avocat a invoqué des raisons de santé. Le président a demandé une expertise médicale. Gérard Depardieu doit être jugé cette fois-ci pour agression sexuelle sur deux femmes lors du tournage des Volets Verts en 2021. Toujours en France, Matignon annonce que le Premier ministre a subi une opération ce week-end. On apprend que Michel Barnier souffrait d'une lésion cervicale. Il reprendra le travail jeudi. Les résultats de cette opération seront connus d'ici quelques semaines. Au Japon, les résultats des législatives presque inédits plongent le pays dans l'incertitude. Le Parti libéral-démocrate, au pouvoir presque sans discontinuer depuis 1955, n'a pas obtenu la majorité absolue. Un échec cuisant pour le Premier ministre. L'inflation et des scandales à répétition ont miné sa formation politique. Pour l'instant, le chef de gouvernement refuse de démissionner et entend trouver des alliances au cas par cas. Nicolas Rocca.
Shigeru Ishiba a reconnu sa défaite, prenant acte de la colère et de la défiance des électeurs. Mais malgré la gifle reçue dans les urnes, il exclut pour l'instant toute démission ou même discussion avec d'autres partis afin d'obtenir les 18 sièges manquants pour s'assurer une majorité.
En ce qui concerne le type de structure gouvernementale que nous envisageons pour l'avenir, à ce stade, je n'envisage pas d'élargir la coalition.
Très critiqué au sein de son propre camp, le Premier ministre arrivé au pouvoir le 1er octobre aura du mal à faire passer son plan de relance budgétaire ou sa ligne très militariste sur les affaires étrangères. Il espère travailler avec les oppositions pour faire passer des projets texte par texte.
Je pense que c'est de notre responsabilité en tant que parti avec le plus de sièges de construire une relation de confiance et d'avoir des gens qui comprennent que nous allons devoir travailler ensemble pour le bien du peuple, même si l'on vient de partis différents.
La première formation d'opposition, le Parti démocrate constitutionnel, a effectué une percée éclair mais insuffisante pour gouverner seul. Afin d'atteindre la majorité, son leader, Yoshihiko Konoda, devrait rallier à lui une coalition extrêmement large qui irait du Parti communiste au très droitier Parti de l'innovation, une mission qui semble quasi impossible.
Aux États-Unis, le scrutin crucial est incertain et dans 8 jours, 41 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée pour la présidentielle. Joe Biden l'a fait aujourd'hui. Les candidats continuent, eux, à labourer les états clés, ceux qui peuvent faire basculer le scrutin. Kamala Harris est dans le Michigan, Donald Trump en Géorgie. À Cali, en Colombie, la COP diversité entre dans sa seconde semaine. Les représentants de plus de 190 pays planchent toujours pour trouver des solutions alors que les terres, les mers et les êtres vivants sont menacés d'une destruction par les humains. Depuis une semaine, œuvre de sensibilisation, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont venues passer du temps dans l'espace consacré à la société civile à Cali, la zone verte en plein centre-ville. Écoutez le reportage de Lucille Gimbert.
Voilà de la concurrence pour la rue du Péché où les habitants de Cali se pressent le samedi soir pour danser la salsa en plein air. Depuis une semaine, la COP s'est installée dans un parc au cœur de la capitale du Pacifique colombien. Au milieu de la foule, Dancy a glissé un petit papier dans une gigantesque fleur en métal. Elle y a inscrit son engagement pour la nature, trier ses déchets, économiser l'eau et sensibiliser.
Ici, les gens aiment beaucoup la culture, alors avec tous les spectacles de danse, de chant qu'il y a, ça les touche et beaucoup parlent de la COP. Et s'ils ne savent pas ce que c'est, nous, qui en connaissons l'importance pour la planète, on leur explique.
Vente de produits artisanaux, écrans géants où défilent des images de jaguars ou de colibris, expérience sonore pour comprendre les paysages colombiens. La zone verte est à la fois foire, festival et agora politique. Karem, jeune leader afrodescendante, s'est exprimée lors d'un des innombrables débats organisés pour la COP.
En Colombie, il y a des communautés autochtones et d'autres afrodescendantes. Il faut que nos droits, nos cosmovisions, notre vision commune du monde soient respectés, car chaque communauté vit en fonction d'un écosystème.
Une diversité ethnique, sociale et environnementale mise en valeur par cette COP des gens. Lucille Gimbert, Cali, RFI.
Et voilà, c'est la fin de ce journal international Nemo.
Merci Karine Bellicha. Dans une demi-heure, place au débat. Mais avant cela, décryptage.
Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir Véronique Rigolet, c'est à vous.
Bonsoir Nemo, bonsoir à tous. Dans Décryptage ce soir, la folle campagne de Donald Trump en roue libre désormais dans la vulgarité, multipliant à chaque meeting les insultes et les outrances dans la toute dernière ligne droite ultra serrée de la présidentielle américaine. Stratégie électorale assumée ou bien folle divagation d'un homme instable ? On en parle ce soir avec Hélène Kuntz, professeure à l'INSEC, spécialiste des États-Unis, autrice de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris chez LibriNova. Également en ligne avec nous, Cécile Coquet-Mokoko, professeure de civilisation des États-Unis à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Bonsoir à vous deux. Merci de nous rejoindre sur RFI. Donald Trump, on le sait, n'a jamais fait dans la finesse, mais cette campagne est encore plus vulgaire que toutes les précédentes, là où il n'hésite pas à disserter sur l'anatomie virile d'un ancien joueur de foot, de golf, décédé, ou lorsqu'il demande aux électrices républicaines de sortir leur gros porc de mari de leur canapé pour qu'ils aillent voter. Ou bien encore et toujours lorsqu'il s'attaque à sa rivale Kamala Harris pour l'agonir d'injures, allant même jusqu'à la traiter de vice-présidente de merde dans un meeting la semaine passée. On écoute Donald Trump.
C'est une personne horrible, une vraie extrémiste de gauche. Elle est folle. Elle rend les gens dingues. Ce qu'elle a fait aux entrepreneurs de ce pays est terrible. C'est la plus à gauche de tous. Alors, il faut que vous disiez à Kamala Harris que vous en avez assez, que vous n'en pouvez plus. On n'en peut plus de toi. Tu es une vice-présidente de merde. Tu es la pire de toutes. Kamala, tu es virée. Dégage de là.
Donald Trump, Hélène Kuntz, cette violence verbale de Donald Trump contre Kamala Harris, cette agressivité extrême, c'est le signe de quoi ? De fébrilité, de mépris profond de Kamala Harris, les deux ? Allô ? Ah ! Hélène Kuntz ? Il semblerait qu'on ait un petit souci de ligne. Hélène Kuntz, est-ce que cette violence, on vient d'entendre les propos de Donald Trump ? D'accord. Ah, Hélène Kuntz, qu'on rejoindra donc plus tard. Alors, Cécile Coquet-Mokoko, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On a donc bien entendu Donald Trump, c'était la semaine passée dans un meeting, traitait donc Kamala Harris de vice-présidente de merde. Une telle violence, une telle agressivité, c'est le signe de quoi ? De sa fébrilité alors que le match est loin d'être plié ou tout simplement de son profond mépris de Kamala Harris ?
Je pense que c'est le signe de son profond mépris. C'est un petit peu le revers de la médaille de son égocentrisme et de l'adulation sur laquelle il s'appuie pour avoir une image de lui-même en tant que gagnant. Il faut absolument que son adversaire n'ait absolument aucune qualité et soit l'objet de mépris et de haine pour pouvoir jouer en fait le rôle de défouloir pour lui-même et pour ses supporters. Mais ce que je trouve intéressant là, c'est que qu'on regarde toutes ces interventions, il ne s'adresse pas aux indépendants. Il ne s'adresse pas aux électeurs et aux électrices qui n'ont pas encore fait leur choix. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'avoir en miroir la foule de ceux qui l'adulent.
C'est-à-dire les hommes ?
Pas seulement des hommes, il y avait des femmes qui étaient aussi derrière la tribune. Et d'ailleurs, on sait bien que ces personnes ne sont jamais choisies au hasard. Mais effectivement, il y a une forte attirance de la part des hommes pour ce langage extrêmement viril, salace, ce qui est toujours un peu surprenant quand on pense au nombre de chrétiens évangéliques qui soutiennent la candidature de Donald Trump. On lui passe tout.
On y reviendra. Hélène Kuntz, on vous a retrouvé sans prendre ainsi frontalement à Kamala Harris. C'est parce que c'est une femme. Est-ce pour la décrédibiliser?
Oui, mais c'est un peu facile, bonsoir, la misogynie de Donald Trump. Je ne suis pas sûre que l'on suit là. Je trouve que le camp républicain est très fracturé. Nous avons d'un côté les MAGA, Make America Great Again, donc les partisans de Trump, mais ils sont confondus sur les listes électorales avec les anti-Trump, les never-Trumpers qui portent toujours l'étiquette républicain. Vous voyez? Donc, il y a toutefois une mouvance dans l'autre sens. Je prends rapidement un exemple, le Lincoln Project, qui est un Political Action Committee, c'est un rassemblement des républicains. Et eux, ils passent en ce moment un pub qui dit « Soyez un homme, votez pour une femme. Be a man, vote for a woman. » Donc, vous voyez, c'est vieux, la misogynie qu'il propose Trump. Et il est vrai que là, les dernières personnes qui seront mobilisées pour voter, il faut les mobiliser sur des idées soit positives, soit négatives, soit progressistes, soit obscurantistes. Donc, vous voyez, la haine et la colère de Trump, c'est vrai que ça maintient sa base, mais ça ne galvanise pas d'autres votants et ça n'élargit pas sa base. Donc, il ne peut pas compter que sur sa base pour gagner. Ils sont trop faibles, ils sont qu'à 47%.
Cécile Coquet-Mokoko, est-ce que s'en prendre ainsi à Kamala Harris, c'est aussi parce que c'est une femme, qui plus est, une femme métissée, et il y a des relents de racisme profond de Trump qui plaît à son électorat, à sa base la plus dure?
C'est pas seulement de la part de Trump, on a entendu aussi tous ceux qui étaient là pour chauffer la salle, qui exactement au moment où Kamala Harris était en train de rendre visite à la communauté portoricaine de Philadelphie, était en train de traiter Puerto Rico, qui est une colonie américaine, d'immondices. Donc effectivement, on a la même chose que ce qui s'était passé dans la campagne de 2016 vis-à-vis de Hillary Clinton, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'adversaire est une femme, tous les coups sont permis, absolument tous. Et là, en plus, il y a tout le facteur racial. On a même eu un des amuseurs qui chauffait la salle, qui a utilisé l'image de la pastèque pour ridiculiser un homme noir qui se trouvait dans l'assistance. Donc c'est toujours quelque chose qui galvanise la base presque ségrégationniste en fait sur laquelle s'appuie Donald Trump. Et si on comparait sa campagne avec la campagne du candidat ségrégationniste au milieu des années 1960, on trouverait pas mal de points de similitude, y compris cette compréhension de la loi et l'ordre comme étant la loi et l'ordre pour les véritables Américains, entendre par là les hommes blancs.
C'est une stratégie très, très sexiste, très viriliste. Il décrit Kamala Harris en femme folle, faible, qui serait incapable de tenir tête aux ennemis de l'Amérique, Poutine, Xi Jinping. C'est cette image là qu'il veut donner de lui, d'homme fort, de limite de mâle alpha, pour qui il faudrait voter pour que l'Amérique soit protégée. Cécile Coquet-Mokoko.
Oui, c'est exactement cette image-là qu'il souhaite projeter, d'où aussi l'utilisation des codes du catch avec la présence de Hulk Hogan qui était là pour montrer ses biceps et déchirer son t-shirt. Il y a une espèce de message subliminal qui est présent là et qui, qu'on le veuille ou non, parle à un certain nombre d'électeurs, y compris d'électrices.
C'est sans doute pas un hasard, Hélène Kuntz, si la chanson qui accompagne Donald Trump sur ses clips, c'est la fameuse chanson « It's a man's world ».
Ok. Oui, il s'enfonce dans ses idées, effectivement, de hyper-masculinité, mais il perd un électorat ce dont il a réellement besoin. Tout le monde n'est pas animé par la haine et la vengeance. Mais donc, on est très loin de notre Donald Trump de 2016.
Est-ce qu'il pourrait pas essayer d'attirer, parce qu'on le disait, hein, il vise les hommes, et plus largement pour essayer d'élargir son électorat, certains jeunes blacks, voire des latinos avec une culture un peu plus macho, qui pourraient se reconnaître dans ce genre d'attaque contre les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène Kunz?
Alors, je pense que c'est une idée. Mais à 8 jours de l'élection, il aurait fallu réellement valider ce qu'on vient de dire, vous voyez? Mm-hmm. C'est-à-dire, quand Kamala Harris dit, moi, je fais de la place pour des républicains, je fais de la place pour des républicains qui sont désaffectés par Trump. Eh ben, elle sillonne le pays avec Liz Cheney. Donc, pourquoi pas? Il aurait pu attirer les jeunes latinos comme vous décrivez. Mais derrière, il y a, ça n'est jamais suivi de fait. Donc, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle en termes de mobilisation des troupes, le fameux ground game. Hein. Mmh. Sur le terrain, les démocrates ont à peu près 500 000 bénévoles sur le terrain. On peut comparer ça avec 70 000 côté républicain. Et ces 70 000, heureusement, Elon Musk est arrivé à la rescousse parce que c'est plutôt lui à qui on a sous-traité cette prestation-là.
Depuis qu'il multiplie en tout cas ses provocations, hein, toutes ses outrances ces derniers jours, il remonte un petit peu dans les sondages. Comment expliquer, Cécile Coquet-Mokoko, que Trump puisse ainsi tous permettre on a vu Kamala Harris l'accuser également d'être fasciste, mais ça n'a pas bien fonctionné. Elle doit jouer selon les règles, mais personne ne peut vraiment s'aventurer dans ce registre de l'outrance où Trump, lui, se donne aucune limite.
C'est vrai qu'il y a effectivement un jeu qui ne se joue pas de la même façon de part et d'autre de l'échiquier. Trump s'appuie aussi sur un certain nombre d'influenceurs et d'influenceuses qui ont des liens avec la Russie de Poutine. Et ça, c'est pas forcément à négliger. Ce sont peut-être plutôt ces influenceurs et influenceuses qui ont tendance à façonner l'opinion publique et notamment dans les segments les plus jeunes de l'électorat.
Et Hélène Kunz, Trump a normalisé ce type de discours violent durant sa présidence. Maintenant, pour le public américain, il a une plus grande tolérance par rapport à ses outrances.
Alors, je pense que peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'on ne tolère que pour lui.
Ah, si c'est une bonne nouvelle.
Façon de faire. Oui, mais pardonnez-moi, c'est pour dire que les autres républicains ne peuvent pas se permettre. On l'a vu pendant les élections de mi-mandat en 2022, plein de candidats Trump qui ont essayé, tenté de prendre les codes de Trump, ils ont échoué terriblement parce que le public ne le supporte pas venant d'autres et ça ne vient que de lui.
Alors c'est
moi, je suis plutôt optimiste sur l'élection de mardi prochain.
Ouais, c'est peut-être ce qu'on a vu hier, hein, ce meeting de Donald Trump à New York. Il y a cet humoriste, Tony Hinchcliffe, qui a dérapé, qui a comparé l'île de Porto Rico à une île flottante d'ordures au milieu de l'océan. La séquence a été rapidement dénoncée sur les réseaux sociaux. L'entourage de Trump avait fait savoir que ce n'était pas l'opinion de l'ex-président. Est-ce que ça risque de faire perdre le vote des quelques 5 millions de Portoricains qui ont émigré aux États-Unis? Est-ce que c'est ça le risque de cette stratégie de l'insulte et de l'outrance, Céline Coquet-Mokoko?
Oui, il y a de forts risques, effectivement. Mais je rejoins tout à fait Hélène Kunz quand elle dit qu'il n'y a que pour Trump qu'on pardonne ce genre de choses. Insulter des militaires qui sont morts, c'était normalement un tabou total dans la vie politique américaine.
Ça a fait polémique quand même. Hein.
Oui, ça fait polémique, mais ce qui sera intéressant, ce sera de voir ce que feront les républicains après Trump. Qui va se permettre de reprendre ses codes et d'utiliser la provocation ou soi-disant provocation de manière systématique.
Dans les outrances de Trump, elle commence quand même à susciter des doutes dans ses propres rangs républicains. Est-ce que il pourrait ainsi s'aliéner les électeurs les plus modérés de son parti, alors même qu'on le dit dans cette dernière ligne droite, chaque voix va compter, Hélène Kunz?
Alors, je pense que c'est déjà chose faite. Lors de chaque élection présidentielle, on a eu les républicains pour Obama, une poignée de personnes, les républicains pour Hillary Clinton, les républicains pour Biden. Mais là, les républicains pour Harris, c'est une vraie coalition qui cherche beaucoup plus loin dans un deal électoral désaffecté par Trump. Et Madame Harris va jusqu'à dire que elle aura à même son cabinet une ou plusieurs personnes du bord républicain. On est beaucoup plus sur un front des gens qui croient encore dans nos institutions contre les MAGA, les Make America Great Again, qui sont le propre de Donald Trump.
Cécile Coquet-Mokoko, est-ce que dans les limites de cette stratégie de l'insulte, cela pourrait déclencher justement un vote caché chez les femmes qui votent républicain, qui n'avoueraient jamais voter Harris, mais qui le feraient, comme on dit, dans le secret de l'isoloir? Est-ce que vous y croyez à ce vote caché chez les femmes républicaines?
Très franchement, je n'ai pas de boule de cristal. Je peux pas prendre mes désirs pour des réalités. Je sais qu'il y a certaines Texanes, notamment, qui, tout en étant contre l'avortement personnellement, ne s'estiment pas fondées à interdire l'accès à l'avortement à leurs concitoyennes. Donc peut-être qu'il y aurait une frange de l'électorat qui basculerait. Mais l'insistance est tellement mise sur le pouvoir d'achat, sur la hausse des prix, que Trump essaie clairement de focaliser la rancœur et la colère des électeurs et des électrices sur ce point-là.
Au-delà de l'élection du 5 novembre, quel impact pourrait avoir cette violence débridée à laquelle on assiste ces derniers jours, ces dernières semaines? Est-ce qu'il y a toujours le danger de plonger le pays très divisé dans un climat de véritable guerre civile ou pas, Hélène Kuntz?
Alors, je suis optimiste sur ce point. Je vous dis pourquoi. Si Donald Trump perd, tout le gratin du Parti républicain, ils vont se tourner leur veste en deux secondes, en commençant avec les Mitch McConnell. Et tous les gens, ils vont dire, mais oui, mais de toute façon, il fallait pas qu'il soit candidat une troisième fois. Donc, si vous voulez, on a fait des tests. Donald Trump a eu son procès à New York. Il a demandé aux partisans de venir à son secours, parce que devant le tribunal, pour lui, c'était injuste, etc. Il y avait plus de policiers à New York qu'il y avait de ses partisans. OK. Même Rebelote, en Atlanta, il devait se rendre dans un tribunal à cause d'encore une autre casserole de son RICO case, le fameux « Trouvez-moi 11 millions de voix ». Il a dit « Mais venez, venez, tous mes partisans, venez ». Il était seul face à lui-même devant le tribunal. Donc, je pense que si risque il y en a, vous savez, le risque en 2020, c'est qu'il avait la main mise sur le pouvoir. C'est pour ça qu'on a eu ce scandale incroyable du 6 janvier.
C'est la grande différence aujourd'hui.
Ah ben, ça va être, je l'espère, je l'espère.
Cécile Coquet-Mokoko.
Une passation paisible de Biden.
Cécile Coquet-Mokoko, est-ce que vous êtes aussi optimiste, entre guillemets, qu'Hélène Kuntz, même si Trump a déjà indiqué qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats s'il ne l'emporte pas?
Moi, j'ai beaucoup plus de craintes, mais bon, je suis pas américaine, donc j'ai un petit peu moins d'optimisme chevillé au corps. Je crains pour ce pays et pour le maintien de ses valeurs constitutionnelles. Donc j'espère que ma collègue aura raison.
Oui, on sait qu'il est mauvais perdant, qu'il affirme que l'élection de 2020 lui a été volée. On se demande d'ailleurs, on est toujours stupéfait, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans pour qu'on en soit aujourd'hui avec Trump aux portes de la Maison Blanche, Hélène Kuntz? Rapidement,
rapidement, il y a des lacunes dans notre système aux États-Unis. Il y a des choses très inéquitables. Et effectivement, on a vu qu'il y a la justice n'est pas toujours appliquée en temps et en heure. D'ailleurs, le 26 novembre, Donald Trump attend sa prononciation de peine pour les 34 chefs d'accusation. Donc, s'il est élu président, ils vont disparaître. S'il n'est pas élu, il doit comparaître. Et je m'interroge aussi s'il va même rester sur le sol américain si jamais il n'est pas élu.
Voilà, et ça sera l'occasion d'un prochain décryptage. Merci à vous deux. Hélène Kuntz, professeure à l'INSEC, spécialiste des États-Unis, autrice de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris chez LibriNova. Merci à Cécile Coquet-Mokoko, professeure de civilisation des États-Unis à l'Université de Versailles. Et je remercie Éléonore Krenik, cellule invitée, également Maëlle Guyot à la réalisation ce soir.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde.
Demain,
l'insuffisance rénale. Quand se faire dépister, comment la prévenir et la prendre en charge.
Mercredi,
la cataracte et le glaucome sont des maladies chroniques des yeux. Un patient sur deux pourrait être soigné s'il était pris en charge plus tôt. Comment permettre un diagnostic précoce ?
Priorité santé avec